30. Ici à Paris, l'heure est au débat sur RFI, c'est parti.
Le débat du jour. Romain Ozoui.
Alors c'est peut-être la première manifestation du changement climatique, les événements extrêmes. Vous les observez, évidemment, ils se multiplient dans le monde. Typhons, inondations hors normes, canicules exceptionnelles, feux de forêt, impossible à maîtriser. Et si cela arrivait en France? Notre question ce soir, sommes-nous prêts à affronter un événement climatique majeur? Alors certains diront que cela est déjà arrivé. Oui, mais si la puissance est à multiplier par 10, par 100, est-ce que la France serait capable de réagir? Quel dispositif existe? Que faut-il améliorer? Eh bien, soyez les bienvenus dans le débat du jour. Et pour répondre à ces questions, nos trois invités à mes côtés en studio, d'abord Françoise Vimeux, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes climatologue, directrice de recherche à l'Institut de recherche pour le développement. Face à vous, Clément Mourillon, bonsoir.
Bonsoir.
Responsable des affaires publiques à la Croix-Rouge française et rédacteur d'un rapport qui a été publié en fin de semaine dernière, qui est au cœur de notre débat, et qui concerne la préparation et la résilience face aux événements climatiques extrêmes. Notre troisième invité est en ligne avec nous. Bonsoir François Gémen.
Bonsoir Rémi.
Bienvenue, professeur à HEC, spécialiste de la gouvernance du climat, directeur de l'Observatoire Hugo à l'Université de Liège, enseignant à Sciences Po et à la Sorbonne. Merci beaucoup à vous, merci à vous trois d'avoir accepté l'invitation du débat du jour sur RFI. Alors pour le moment, les pires événements climatiques, il faut le dire, ils sont observés de loin en France. La France n'est pas le premier pays, le pays en tout cas qui est en première ligne face au réchauffement de la planète. Est-ce que, Françoise Vimeux, dans les années qui viennent, la France pourrait être touchée par un événement majeur et quel type d'événement?
Alors en fait, la France est déjà touchée par des événements météorologiques extrêmes. On peut citer les vagues de chaleur en 2003, en 2022. On peut citer les inondations récentes dans le Pas-de-Calais ou même les incendies en Gironde l'année dernière. Donc la France est déjà touchée et elle va continuer à être touchée parce que les événements météorologiques extrêmes vont se multiplier et ils vont être plus intenses. Et puis au-delà des événements météorologiques extrêmes, la France va aussi être touchée par les effets graduels du changement climatique. Par exemple, les étés 2003 et 2022, qui étaient pour nous aujourd'hui des étés exceptionnels, seront des étés normaux à horizon 2050. Donc, on n'est pas préparé à la fois pour des crises climatiques majeures, mais aussi pour des effets, je dirais, moyens, des tendances moyennes dans le cadre du changement climatique.
Comment juger la capacité de la France? Comment est-ce que vous jugez la capacité de la France à réagir aux événements climatiques précédents que vous avez cités?
Alors en fait, le Haut Conseil pour le climat nous le rappelle dans tous ses rapports annuels. La Cour des comptes en fait a fait un rapport au mois de mars dernier sur l'adaptation et la conclusion elle est la même, c'est que nous ne sommes pas aujourd'hui à un niveau d'adaptation suffisant. On est très en retard sur l'adaptation dans tous les secteurs et dans tous les territoires.
François Gémen, est-ce qu'on peut déjà tirer effectivement des enseignements de la réponse qu'a pu avoir la France aux événements précédents qu'a cité Françoise Vimeux, évidemment les épisodes caniculaires notamment, les inondations qui sont répétées effectivement dans le nord de la France?
Bien sûr, et globalement, la réponse qu'on peut en tirer, c'est que nous ne sommes pas prêts, et je dirais même que nous sommes très impréparés face à ces impacts. Alors, ce n'est pas propre à la France, et l'idée, ce n'est pas du tout de se flageller soi-même. Quand on regarde la réaction de la Belgique ou de l'Allemagne lors des inondations de l'été 2021, c'était globalement la même. En fait, nous avons pendant très longtemps imaginé que nous étions en quelque sorte immunisés face aux impacts du changement climatique, que c'était pour les pays du Sud ou pour les générations futures. Et on a considéré que la seule manière de lutter contre le changement climatique, c'était de réduire nos émissions et que l'adaptation, en gros, c'était pour les pays du Sud. On réalise aujourd'hui que nous sommes vulnérables également, qu'on a énormément de retard en matière d'adaptation et que donc il va falloir mettre les bouchées doubles. Il va falloir aussi s'inspirer à mains égards de ce qui était fait dans les pays du Sud. Je crois que c'est très, très important. Et prendre conscience de notre propre vulnérabilité, c'est sans doute le premier pas sur le chemin de l'adaptation.
Clément Mourillon, on en vient à ce rapport que vous avez publié, vous en tout cas, Croix-Rouge française, puisque vous êtes rédacteur de ce rapport. Préparation et résilience face aux événements climatiques extrêmes. Qu'est-ce qui ressort? Déjà d'un mot, d'une idée, on va dire, de ce rapport, si vous deviez le résumer pour les auditeurs, parce que c'est un rapport qui fait quand même pas moins de 148 pages, si je ne m'abuse.
Tout à fait.
Pour nos auditeurs.
La conclusion du rapport, c'est qu'aujourd'hui, nous ne sommes pas suffisamment préparés à la multiplication et l'intensification de ces événements climatiques extrêmes.
Vous êtes le troisième à le dire.
Qui ont été traités. C'est quand même la principale conclusion. D'abord, Madame l'a dit, on l'observe, cette intensification et cette multiplication des événements climatiques extrêmes. Nos bénévoles sur le terrain voient leurs heures de bénévolat d'urgence exploser en 10 ans, parce que lorsqu'ils sont mobilisés, c'est l'exemple du Pas-de-Calais, ils doivent rester beaucoup plus longtemps parce que les événements sont beaucoup plus intenses. Et donc on a une question, nous, de capacité aussi à mobiliser des bénévoles pour porter secours aux populations face à des événements qui vont se multiplier et qui vont être plus longs sur le terrain et toucher aussi des zones parfois géographiques plus larges. Donc d'abord, nous sommes aujourd'hui tous exposés et on le voit. Et derrière ça, le rapport observe un certain nombre de faiblesses, un certain nombre de lacunes dans les niveaux de préparation et de protection des Français. D'abord, les Français, individuellement, chaque citoyen ne se sent pas suffisamment préparé, donc on a un objectif de sensibilisation de l'ensemble des citoyens. Deuxième chose, aujourd'hui, le secours aux populations, c'est-à-dire le métier de la Croix-Rouge française, est insuffisamment considéré pendant ces crises. En général, quand il y a une crise comme ça, on va déblayer les routes, c'est important. On va rétablir les réseaux de communication, c'est important. Mais on ne va pas intégrer le soutien aux populations. Et le troisième niveau un petit peu de faiblesse, c'est la protection des populations les plus vulnérables. Les personnes isolées, les personnes âgées, les personnes à la rue qui sont aujourd'hui pas suffisamment protégés pour faire face à ces événements climatiques extrêmes.
Françoise Dumeux, c'est intéressant parce que ma première question, ça a été à quel type d'événement est-ce que la France peut se préparer dans les années qui viennent, parce que c'est peut-être la question que de nombreuses Français se posent, et vous nous avez répondu en disant ces événements extrêmes existaient déjà et ont déjà existé. Comment ça se fait que les Français ne soient pas conscients de cela? Pour rebondir à l'aspect sensibilisation qu'évoquait Clément Morillon.
Oui, alors dans les pays développés comme la France, hein, la prise de conscience est, elle existe, mais elle est récente. Hein. Et en fait, on a un sentiment faussé. On a l'impression, comme le disait François Gémen, qu'il n'y a pas urgence. Et c'est vraiment un frein à l'adaptation. Et moi, je dirais de mon expérience que c'est seulement quand on a vu les incendies en Gironde que les gens se sont dit « mais c'est incroyable, il y a le feu au bout de mon jardin ». Puis là, il y a eu des inondations, ça a été dit, dans le nord de la France. Et là, tout le monde s'est dit, mais c'est incroyable, ces inondations, ça dure. Et puis, vous l'avez dit, elles touchent un territoire vraiment très large. Donc, pour moi, on a un ressenti qui est faussé sur l'urgence de la situation. Et en France, c'est seulement depuis quelques années qu'on se dit que non seulement le changement climatique impacte le territoire métropolitain et nos outre-mer, mais qu'en plus, on n'y est pas du tout préparé.
Justement, on n'y est pas préparé. Je pense à peut-être l'un des plus grands événements climatiques qu'a touché la France ces dernières décennies, par exemple la canicule de 2003, vous avez l'impression, ou la tempête de 99, ces grands événements climatiques, vous avez le sentiment qu'il n'y a eu aucun enseignement qui a été tiré par les autorités publiques?
Alors, sur la canicule de 2003, après la canicule de 2003, il y a eu vraiment des enseignements qui ont été tirés. D'abord, on a mis en place ces alertes que fait Météo France, alerte rouge, orange, etc. Donc ça, c'est vraiment un système qui a été mis en place. Et puis, vu le nombre de décès autour de cette canicule, hein, près de 15 000 décès, il y a vraiment eu, je dirais, des efforts pour informer la population, pour dire quels sont les gestes à respecter quand il fait chaud. Vous restez chez vous, vous baissez les volets pendant la journée, vous ouvrez pendant qu'il fait frais. Donc, il y a eu beaucoup d'informations, mais finalement, c'est un type d'adaptation qui repose sur l'individu, donc qui fait peser finalement la charge mentale de l'adaptation sur l'individu. Et je trouve qu'il y a eu peu d'adaptations, je dirais, structurelles ou même institutionnelles. Donc on y va doucement, mais on y va vraiment très doucement.
Vous pensez par exemple à la rénovation thermique, j'imagine,
alors,
puisqu'on va poursuivre sur
la
canicule.
Oui, alors des exemples, la rénovation thermique des bâtiments. En juin 2019, par exemple, on a eu une canicule qui est arrivée pendant le calendrier scolaire. On a dû repousser le brevet des collèges parce que c'était impossible de faire plancher des collégiens dans les bâtiments qu'on a aujourd'hui. Donc l'isolation thermique des bâtiments, c'est un énorme chantier, et ça va quand même très très doucement.
Pour rebondir à la première question sur les événements majeurs, extrêmes qui pourraient toucher la France dans les prochaines années, les prochaines décennies, je veux dire, les Français sont davantage, risquent davantage d'être touchés par une canicule, des inondations, que par un typhon. Est-ce qu'on peut imaginer, vous êtes climatologue, on ne va pas faire de la collapsologie, mais quel pourrait être l'événement ou quelle pourrait être la menace si par rapport à ce que vous avez cité, comme je l'ai dit en amorce, ça risque d'être, ce serait 10 fois 100 fois, ou 100 fois supérieur.
Alors, il n'y a pas à imaginer, en fait. Hein. On a une très bonne image de ce qui va se passer. Donc, au niveau des vagues de chaleur, je l'ai dit tout à l'heure, à horizon 2050, nos étés normaux ressembleront à l'été 2003 ou 2022. Se superposeront des vagues de chaleur pendant ces étés qui seront 3, 4 à 5 degrés plus intenses qu'aujourd'hui. Au niveau des sécheresses, en particulier la sécheresse des sols, on sait qu'elles vont se multiplier, en particulier dans le sud de la France, et qu'elles vont être plus longues. Et puis, au niveau des pluies torrentielles, je prends l'exemple d'une pluie torrentielle qui arrivait une fois tous les 10 ans dans un climat non modifié par l'homme. Eh ben, à horizon 2050, sa fréquence est environ multipliée par 2, et le volume des pluies est 15 à 20% supérieur, suivant qu'on ait des orages ou des, enfin, un autre type de nuages. Je ne rentre pas dans les détails. Donc, en fait, on n'imagine pas. On sait très bien ce qui va se passer. On arrive à le quantifier, et c'est pour ça qu'on attend une adaptation dimensionnée et dimensionnée non pas sur le court terme, mais au-delà de 2050, voire jusqu'à 2100.
On arrive à le quantifier, encore une fois, ça veut dire qu'il ne veut pas y avoir d'épisode de crise, d'épisode extrême. On a l'impression que c'est très quantitatif, effectivement, et très crescendo, tel que vous en parlez.
Alors, en fait, on peut quantifier quels seront les extrêmes des extrêmes, bien sûr. Alors, il y a toujours une incertitude par rapport aux projections climatiques, mais personnellement, je trouve que jusqu'à présent, les modèles de climat ont assez bien prévu à la fois les changements moyens et aussi les changements des extrêmes.
François Gémen, vous qui êtes spécialiste de la gouvernance du climat, est-ce qu'il y a des modèles à l'étranger dont la France pourrait s'inspirer justement en termes de préparation à des événements exceptionnels climatiques ?
Oui, bien sûr, il y en a beaucoup, beaucoup dans les pays industrialisés. Par exemple, les Pays-Bas ont mené depuis, je dirais, très très longtemps des travaux face aux risques de submersion marine qui sont vraiment assez remarquables, mais également des pays auxquels on pense un peu moins. Je pense par exemple au Bangladesh, qui est vraiment à développer une politique d'adaptation et de résilience face aux catastrophes naturelles assez remarquable, qui fait que lorsque le Bangladesh est touché aujourd'hui par un événement climatique extrême, ils sont parvenus à réduire considérablement la mortalité, donc notamment par des systèmes d'alerte précoce dont nous pourrions nous inspirer. Je crois qu'un gros problème que nous avons face à ces événements climatiques extrêmes, c'est que nous les considérons encore comme exceptionnels. Vous avez rappelé tout à l'heure la canicule de 2003 ou d'autres événements qui ont marqué. Alors, bien entendu, il y a eu une forme de prise de conscience, mais on les a considérés comme des événements exceptionnels, c'est-à-dire des événements qui n'avaient pas forcément vocation à se reproduire, pas forcément vocation à engager des transformations structurelles en termes de politique publique. Il faut vraiment aujourd'hui, je dirais, admettre que nous sommes face à une transformation structurelle du climat et donc des conditions de vie sur Terre. Et parfois, on n'a pas encore véritablement cette conscience. Une preuve que j'ai, par exemple, c'est que chaque nouveau record de température est volontiers considéré comme un événement exceptionnel qui va faire les gros titres de la presse. Alors qu'en réalité, nous sommes malheureusement, nous suivons la courbe qui était prévue par les modèles climatiques. Et en soi, les records de température sont hélas assez mécaniques. Tant que nous continuerons à augmenter le niveau de concentration des gaz à effet de serre dans l'atmosphère, eh bien, les températures vont elles aussi continuer à grimper.
Oui, on n'est pas dans un scénario de l'apocalypse pour vous abonder dans le sens de Françoise Vimeux, c'est-à-dire l'exceptionnel va devenir du prévisible.
Effectivement. D'une part, l'exceptionnel va devenir structurel et va devenir prévisible. Et surtout, il faut abandonner l'idée qu'on va revenir à la normale parce que la norme se trouve devant nous et non pas derrière nous.
Romain Ozoui.
La France est-elle prête à affronter un événement climatique majeur ? La question qu'on pose ce soir dans le débat du jour. François Gémen, que l'on vient d'entendre, professeur à HEC, spécialiste de la gouvernance du climat, directeur de l'Observatoire Hugo à l'Université de Liège, enseignant à Sciences Po et à la Sorbonne. Françoise Vimeux, climatologue, directrice de recherche à l'Institut de recherche pour le développement. Et Clément Morillon, responsable des affaires publiques à la Croix-Rouge française et rédacteur de ce rapport sur la préparation et la résilience face aux événements climatiques extrêmes. Clément Morillon, je voudrais vous entendre à présent, puisque vous nous avez expliqué finalement qu'est-ce qui fait que la France n'était pas prête aujourd'hui pour affronter un événement climatique majeur, ou qui fait que, justement, lors de récents événements exceptionnels, la France ne s'est pas montrée à la hauteur, et notamment le manque de sensibilisation de la population. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que la France soit prête, justement, à affronter, pour reprendre encore une fois les mots de Françoise Vimeux, les prochaines crises climatiques qui sont prévisibles ?
Alors, qu'est-ce qu'il faudrait faire? La Croix-Rouge française n'a pas la réponse seule.
Vous avez fait des préconisations.
Mais la Croix-Rouge française formule des préconisations sur la base de ses observations réalisées sur le terrain auprès des populations. Il y a deux blocs de propositions. Il y a un bloc d'abord qui s'adresse aux citoyens. Parce que le citoyen a un rôle à jouer, il n'est pas le seul, et c'est important, Madame l'a dit. Mais pour la Croix-Rouge française, chaque citoyen est acteur de la réponse. Et donc, on a deux propositions qui visent vraiment à améliorer la capacité du citoyen à faire face à ces crises. D'abord, un, que les citoyens soient formés aux gestes et comportements qui sauvent. Alors, historiquement, la Croix-Rouge française, c'est les gestes qui sauvent, c'est le massage cardiaque. Mais aujourd'hui, notre formation gestes qui sauvent, elle intègre également les comportements qui sauvent. C'est-à-dire comment je me comporte en cas de situation de crise. Comment j'attends ou pas les secours ou j'évacue.
C'est quoi les gestes qui sauvent en cas d'événement, encore une fois, climatique inédit?
Donc les comportements qui sauvent, c'est savoir est-ce que je dois aller chercher mes enfants à l'école quand on annonce une inondation. La réponse est a priori non, sauf s'il y a une demande de le faire, parce qu'ils sont plus en sécurité et il ne faut pas monter dans un véhicule alors qu'une inondation est annoncée. Vous voyez, c'est des petits comportements concrets qui vont permettre de mettre en sécurité chacun des citoyens. Or, aujourd'hui, on le voit dans les situations de crise, les citoyens parfois se mettent en danger, mais par méconnaissance des comportements qui sauvent.
La balle est d'abord dans le camp de la population, on a l'impression, en vous entendant, davantage que dans le camp des autorités publiques.
Non, c'est vraiment un équilibre. C'est un équilibre et c'est une bonne question. On a vraiment des propositions qui concernent le citoyen, puisque nous sommes en lien avec eux, mais également des propositions qui s'adressent au pouvoir public, parce qu'il y a aussi un effort collectif à mener pour la préparation face à ces crises. Alors nous, on est toujours sur le champ du soutien aux populations. Il y a d'autres efforts qui sont à fournir sur l'adaptation, et Mme Vimeux et M. Gemène pourront les préciser. Nous, on est sur le champ du soutien aux populations, mais on sait également que les pouvoirs publics, nationaux et territoriaux, ont aussi un rôle à jouer dans ce dispositif. Et j'ai cité par exemple la question des personnes les plus vulnérables. Aujourd'hui, il existe un plan grand froid qui permet de sonner la mobilisation générale pour la protection des personnes les plus vulnérables en cas de vague de froid. Il n'y a pas d'équivalent pour les canicules, il n'y a pas de plan grand chaud. Alors qu'aujourd'hui, on sait que les gens à la rue, ils sont en danger pendant les périodes de canicule. Donc on appelle les pouvoirs publics à décliner un plan équivalent grand chaud pour mettre en sécurité les personnes qui sont à la rue pendant les vagues de canicule.
Donc un plan grand chaud, formation de la population aux gestes qui sauvent, Françoise Vimeux, ça vous inspire quoi ces préconisations de la Croix-Rouge française face aux événements climatiques extrêmes?
Alors, moi, je crois que c'est essentiel d'expliquer aux gens que pendant la crise, il y a des comportements à avoir et des comportements à ne pas avoir. Et vous l'avez dit, il y a des fois, ça paraît évident, mais quand vous êtes au milieu de la crise et que vous êtes concerné parce que l'eau vous arrive dessus ou vous êtes en train de suffoquer de chaud, j'exagère un peu, mais vous n'avez pas forcément les idées claires pour agir de manière sensée. Donc ça, c'est absolument essentiel. Mais au-delà de la crise, en fait, il faudrait que avant la crise, il faudrait qu'on soit suffisamment préparé pour minimiser en fait les gestes à réaliser pendant la crise. Et pour moi, le risque, c'est vraiment la composante de l'aléa climatique, de notre vulnérabilité et de l'exposition. Donc si on veut diminuer les risques, on peut par exemple penser à diminuer l'exposition. On a vu lors des pluies torrentielles dans le nord de la France, le nombre de bâtiments, d'activités, de biens économiques, de personnes exposées dans des zones inondables. Il y a aujourd'hui des zones qui ne sont pas forcément inondables, qui vont le devenir. Je pense par exemple à toute notre façade maritime avec les submersions marines. On voit encore des constructions se réaliser dans des endroits où personnellement, quand je le vois, je me dis comment c'est possible. Donc il y a vraiment, je crois, l'idée de passer d'une adaptation réactive ou d'une gestion de crise à tout ce qui est dans l'anticipation de long terme.
Pour synthétiser un petit peu ce qu'on dit depuis le début de ce débat, l'idée n'est pas d'être prêt à un événement complètement apocalyptique qui pourrait arriver, mais finalement... mettre en place une adaptation climatique, cette fameuse adaptation au changement climatique qui doit faire partie des priorités de l'autorité publique, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Encore une fois, vous l'avez dit, la Cour des comptes l'a rappelé.
Alors, oui, bien sûr. En fait, il y a deux leviers face au changement climatique. Il y a bien sûr l'atténuation de nos émissions de gaz à effet de serre, et François Gemène l'a rappelé. Tant que nous n'aurons pas atteint ce qu'on appelle le net zéro émission, c'est-à-dire on n'émet plus de gaz à effet de serre dans l'atmosphère, et si on en émet, on est capable de les récupérer. Tant qu'on n'aura pas atteint ce stade, eh bien la température continuera à augmenter. Et le deuxième levier, c'est l'adaptation. C'est un peu un parent pauvre, et pas qu'en France, ça a été dit. Et je crois que cette adaptation l'adaptation, elle est absolument nécessaire, mais ce qui est très critique, c'est qu'on sait que l'adaptation, elle a des limites dures. Au-delà d'un certain degré de réchauffement, eh bien, l'adaptation, elle devient complexe, voire impossible, sur certains territoires ou dans certains secteurs, ou contre certains événements météorologiques.
Jusqu'où faut-il s'adapter sans mettre à mal l'objectif d'atténuation, qui est l'autre cheval de bataille que vous évoquiez ? Le changement climatique, quand par exemple Christophe Béchu, ministre de la Transition écologique, dit qu'il faut se préparer à une France à plus 4 degrés d'ici à la fin du siècle. Ça veut dire que c'est ce qui va se passer.
Alors oui, nous sommes d'abord sur ce scénario. Hein, la trajectoire d'émissions de gaz à effet de serre sur laquelle nous sommes aujourd'hui nous emmène en France à un réchauffement de plus 3 degrés par rapport à la période pré-industrielle en 2050 et plus 4 degrés en 2100. Donc là, on s'adapte, je dirais, à ce qui va nous arriver. Il faut s'adapter, je dirais, plus fort, il faut s'adapter aux extrêmes qui auront lieu dans une France à plus 4 degrés. Et ça, c'est quand même, comme disent certains de mes collègues, un territoire complètement inconnu pour nous. Et l'adaptation ne met pas à mal l'atténuation. Les deux doivent être suivis en parallèle. Chaque dixième de degré compte, hein, c'est vraiment ce qu'on répète à chaque fois, puisque à chaque fois que la température augmente d'un dixième de degré, eh bien, les conséquences augmentent aussi. Hein, on a un chiffre un peu à la louche, hein, qui dit qu'à chaque fois que la température augmente d'un demi degré, le risque mondial en gros augmente d'un tiers.
François Gémen, la question qu'on pose ce soir, est-ce que la France est prête à affronter un événement climatique majeur ? Elle y fait face depuis des années, mais on a l'impression finalement qu'ils vont être amenés dans les années qui viennent à se répéter et la politique ne sera pas toujours à la hauteur. Qu'en pensez-vous ?
C'est certain, c'est un énorme chantier qui est face à nous et une des clés de l'adaptation, vraiment, c'est l'anticipation. C'est pour ça que l'adaptation, ce n'est pas un état, mais c'est une trajectoire. Dès l'instant où on pense qu'on est adapté, ça veut dire qu'en réalité, on ne l'est pas. Et donc, ça doit nécessairement être une sorte d'adaptation continue face à la manière dont les événements évoluent. C'est vraiment une trajectoire plutôt qu'un état. Et ça implique aussi qu'on cesse de considérer l'adaptation comme un renoncement par rapport aux politiques d'atténuation. Et encore très souvent, on a tendance à voir l'adaptation comme une forme de défaite par rapport à nos politiques d'atténuation. Lorsque Christophe Béchu annonce que les scénarios d'adaptation vont désormais tabler sur une hausse de la température de 4 degrés en France, on lui tombe dessus à bras raccourcis en disant « là, c'est un renoncement, c'est un scénario défaitiste, catastrophiste », alors qu'en réalité, c'est simplement un scénario réaliste, médian et je dirais encore relativement optimiste. Et donc, très clairement, il faut considérer que désormais, la question, ce n'est plus de choisir entre atténuation et adaptation, mais c'est de faire les deux. Ce n'est plus atténuation ou adaptation. Nous allons devoir à la fois éviter ce qui serait ingérable, mais aussi gérer ce qui est d'ores et déjà inévitable. Et ça me paraît très, très important.
Clément Morillon, de la Croix-Rouge française, est-ce que vous avez l'impression que, finalement, les autorités ont besoin d'être confrontées à des crises majeures pour être sommées d'agir ou comment vous attendez, finalement, que votre rapport puisse être perçu ?
D'abord, dans ce que vous dites, ce qui est juste, c'est que les crises majeures sont des moments de prise de conscience. Et on voit que les récentes crise qu'il y a eu autour des grands événements qui ont été cités depuis le début de l'émission permettent cette prise de conscience et aujourd'hui on peut parler d'adaptation et notre rapport aujourd'hui il est entendu aussi parce que nous avons été mobilisés sur des grandes crises. Je pourrais parler des grandes crises dans les territoires ultramarins, Irma en 2017, on a récemment le cyclone Belal à La Réunion, on a une sécheresse à Mayotte, donc on a quand même certains territoires qui sont particulièrement exposés. On a en parallèle ce qu'on a vécu dans le Pas-de-Calais avec les inondations, on a eu une tempête dans le Finistère. Enfin, on voit quand même que petit à petit, tous les territoires sont touchés. Et donc aujourd'hui, je pense que c'est plus facile d'aborder les pouvoirs publics en disant « on n'est pas au niveau ». Ça, je pense que quand même, c'est important. Après, il faut aussi capitaliser sur ce qui fonctionne. Et il y a des territoires où on est en avance, c'est les territoires ultramarins, où des dispositifs assez innovants ont été mis en place. La Croix-Rouge française, avec le soutien des pouvoirs publics, a mis en place, par exemple, des plateformes d'intervention régionale dans l'océan Indien et dans les Caraïbes. Et ces plateformes, c'est des stocks de matériel pour les populations. Donc j'insiste bien, hein, c'est pas du matériel pour déblayer les routes et autres, c'est du matériel pour aider les populations qui sont en difficulté, c'est des denrées non périssables, c'est des stocks d'eau, mais c'est également des duvets, des lipicos pour monter des infrastructures d'urgence. Aujourd'hui, il y en a des territoires ultramarins, on n'en a pas en hexagone. Il faut se poser la question de l'utilité de ces stocks prépositionnés sur le territoire.
En hexagone, nous parlons plus d'une des grandes menaces, c'est la canicule, mais la rénovation thermique, elle est clairement pas au niveau. aujourd'hui.
La rénovation thermique, elle n'est pas au niveau, et même dans nos établissements, la Croix-Rouge française a des établissements qui accueillent des personnes âgées, des personnes en situation de handicap, des crèches. Aujourd'hui, tous ces établissements, ils ne sont pas au niveau pour faire face au nombre de jours de canicule que nous connaissons. Vous disiez, est-ce qu'on a tiré des expériences de la canicule de 2003 ? Oui, mais finalement, peut-être pas au niveau de canicule qu'on connaît aujourd'hui. On a, sur les dernières années, 40 jours de canicule par an. Aujourd'hui, ce n'est pas une pièce réfrigérée qu'il faut dans un établissement. Donc, on a un vrai enjeu également de rénovation énergétique de l'ensemble de ce parc immobilier.
Et un enjeu même de transformation urbaine. Françoise Vimeux, dans quelques semaines, le gouvernement doit présenter son plan national d'adaptation au changement climatique. Quelles sont les priorités selon vous ?
Alors déjà, on peut dire que c'est le troisième plan d'adaptation. Le premier couvrait la période 2011-2015. Donc on voit à quel point l'adaptation, ça prend du temps. Je pense par exemple à l'agriculture. On sait qu'adapter les cultures et adapter de nouvelles filières, c'est au moins 10-15 ans. Et donc ce plan d'adaptation, il va concerner tous les secteurs. François Gemmel l'a un peu dit, il faut à la fois que ce rapport nous donne les objectifs, mais aussi le chemin pour y arriver. Et souvent, c'est ça qui manque dans les plans d'adaptation. Il y a des objectifs qui semblent vraiment très très bien posés, voire même bien dimensionnés dans certains secteurs ou pour certains territoires. Mais on ne sait pas trop comment on va y arriver. Et puis, on parle rarement du coût de l'adaptation. Or, quand on écoute les élus locaux, les maires ou même les élus au niveau des départements, eux ont un vrai problème de coût d'adaptation. Ils disent, moi, j'ai un budget annuel, je ne peux pas, par exemple, remplacer tous les stores dans tous les collèges de mon département, je ne vais pas y arriver.
Mais faire face à une crise majeure, souvent, est beaucoup plus cher que s'adapter.
Oui, exactement. Le coût de l'inaction est supérieur au coût de l'action, on le sait, mais il y a quand même un coût à l'action. Et d'ailleurs, dans le rapport des comptes de mars 2024, il n'y avait pas d'estimation du coût de l'adaptation. Et le rapport disait en quelque sorte, c'est tellement flou de savoir quelle est la voie d'adaptation qu'on va choisir dans tel ou tel secteur, qu'on ne fait pas de prévision sur le coût. Et ça, je crois que c'est un vrai problème dont il faut parler. Et j'espère que ce troisième plan d'adaptation va aborder ce problème du coût.
Et quels sont les secteurs qui sont en première ligne ? On est d'accord, si on chiffre de grandes menaces, canicule, inondation, alors il y a la rénovation thermique, on a dit, alors, donc il y a les bâtiments, il y a la question de l'agriculture aussi qui est beaucoup évoquée.
Oui, moi je crois que vraiment la rénovation thermique des bâtiments, c'est un chantier colossal, parce que ça concerne à la fois les bâtiments publics, mais aussi les bâtiments privés. Je crois que le secteur de l'agriculture souffre aujourd'hui et va souffrir de plus en plus, à la fois à cause de printemps précoces, avec une végétation qui se développe assez tôt, donc qui est sensible au gel tardif, à la fois à la sécheresse dans certains territoires. Je pense qu'il y a une adaptation, on en parle moins parce que ce n'est pas suite à un événement extrême, mais c'est l'adaptation à l'élévation du niveau des mers et tout le risque de submersion marine pendant les tempêtes, mais aussi à marée haute pendant les grandes marées, donc des inondations chroniques, et le risque aussi qui est lié à l'érosion, qui est un phénomène naturel, mais qui est amplifié par exemple lorsqu'il y a des tempêtes et des houles, et avec un niveau moyen des mers plus haut, la situation sera pire en quelque sorte. Donc voilà, il y a vraiment différents secteurs. Et j'espère que ce plan listera et parlera de chacun de ces secteurs.
Ouais, différents secteurs qui doivent s'adapter évidemment à. C'est l'adaptation, c'est le mot-clé finalement de notre
débat. Et de manière différenciée suivant le territoire concerné.
En tout cas, vous avez répondu tous les trois à la question. Non, la France n'est pas prête à affronter un événement climatique majeur. Et l'histoire l'a montré ces dernières années, ces dernières décennies même, avec évidemment la canicule de 2003. On en a parlé dans ce débat. Merci beaucoup, Françoise Vimeux, climatologue, directrice de recherche à l'Institut de recherche pour le développement. Merci Clément Morillon, responsable des affaires publiques à la Croix-Rouge française, rédacteur du rapport sur la préparation et la résilience face aux événements climatiques extrêmes. Et merci à François Gemmel, professeur à HEC, spécialiste de la gouvernance du climat, directeur de l'Observatoire Hugo à l'Université de Liège, enseignant à Sciences Po et à la Sorbonne. Merci à Florence Ponce à la préparation de ce débat, Claude Battista à sa réalisation. Allez, dans un peu plus d'une minute, ce sera l'heure du décryptage avec Marin Kazanov. Ce soir, l'offensive des conservateurs sur les campus américains où la mobilisation pro-palestinienne est forte. Juste après, Afrique Soir. Bonsoir Zéphirin Quadio.
Bonsoir Romain, bonsoir à toutes et à tous.
Allez, quel est le programme ce soir ?
Le programme ce soir, le premier déplacement officiel en France de Félix Tshisekedi, le président de la République démocratique du Congo, arrivé ce matin, rencontrera son homologue français Emmanuel Macron ce mardi pour évoquer, entre autres, la situation sécuritaire dans l'est de son pays. Nous Nous irons ensuite au Gabon où sont attendues les conclusions du dialogue national. Le document issu des assises organisées pour une réforme profonde du pays sera remis mardi au président Oligui Nguema. Nous irons aussi au Togo où l'on votait ce lundi pour les législatives et les régionales.
Merci Zéphirin Kouadio. Rendez-vous dans 30 minutes. Afrique Soir.